Il paraît qu'il faut dire adieu aujourd'hui à celui qui disait « adios » avant d'ajouter toujours dans sa chanson « reviens-moi toujours ». À celui qui disait « pars, pars et surtout reviens-moi ». À celui qui se désespérait une autre fois de ne pas avoir su que le revoir était un adieu. Alors il faut dire adieu aujourd'hui à celui qui l'a si souvent chanté le départ quand il disait « fumer en attendant que le fossoyeur me creuse une tombe au Père-Lachaise » ou que je me tape un saut de l'ange du haut du bord de la falaise, en attendant que le temps s'arrête et que le ciel me tombe sur la tête. Il faut dire adieu aujourd'hui au grand Jacques, tombé du ciel, faisons-le alors dans la joie généreuse qu'il partageait sur scène, ensemble, avec sa famille, en gardant en tête qu'il s'agit toujours plus ou moins d'un malentendu, l'adieu, parce qu'on imagine toujours qu'on va se revoir, qu'on va s'émouvoir, comme il disait, que sa petite musique sera toujours là, qu'il chantonnera « Je sais que vous voulez plus rien savoir, de quand, où et comment nous pourrions nous revoir ?» En attendant, je voyage au pays des nuages, où dans un ciel d'enfer, je revois votre cher visage fiévreux devant l'aérogare, où nos baisers d'adieu disaient « Ce n'est qu'un au revoir ».
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Mon invité, c'est-elle au moins dire adieu. Le 31 mars dernier, après plus de 30 ans à l'Opéra de Paris et 14 ans en tant qu'étoile, elle donnait ce qui aurait dû être sa dernière représentation. C'est un faux départ car elle sera de retour sur les planches exceptionnellement en mai pour un ballet de Crystal Pite. Elle a choisi les mouvements de Pinabauge dans l'Orphée et Eurydice de Gluck pour dire au revoir. Bonjour Marie-Agnès Gillot.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. Comment est-ce qu'on dit adieu ?
On dit à demain.
Donc on ne dit jamais adieu en fait.
Non, jamais.
Je pose la question parce que les étoiles de l'opéra ont le privilège de choisir la pièce sur laquelle ils exécutent leur dernière variation, de mettre en scène leur départ en fait. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Orphée et Eurydice ? Quel sens est-ce que ça avait ?
En fait, on a choisi ça avec Benjamin Millepied à ce moment-là. Les saisons sont créées 3 ans à l'avance, donc il m'avait proposé cette pièce. Comme j'ai fait l'entrée au répertoire de ce ballet, je trouvais ça bien de faire la sortie du répertoire avec.
Et puis c'est l'histoire d'une disparition, Orphée et Eurydice.
Oui, d'un regard.
C'est pas une leçon ?
C'est une leçon, c'est drôle d'être regardé, de ne pas pouvoir être regardé sur scène réellement en fait. Alors que le public était soi-disant... poser son dernier regard sur moi aussi.
Dans mon souvenir, une fois qu'Orphée s'est retourné sur Eurydice, cette dernière est perdue pour de bon. Il n'y a pas de résurrection quelques mois plus tard, tandis que vous revenez vraiment à l'opéra. Quand même que vous y étiez il n'y a pas si longtemps.
J'ai repris hier. Donc, j'ai eu une semaine de battement, comme on dit. C'était court.
Est-ce que c'est quelque chose que vous saviez la première fois où vous l'avez dansée, quand elle est entrée au répertoire, cette pièce d'Orphée et Eurydice, qu'elle compterait autant ? C'était en 2005.
Ah oui, parce que je savais que de passer entre les mains de Pina allait changer certainement beaucoup de choses de ma vie et de mon art.
Pinabauge.
Et elle a attendu longtemps pour m'avoir, Pina. Donc, elle m'a rencontrée d'abord à la cafette et puis elle me disait « Mais comment ça se fait que vous passez jamais les auditions pour mes ballets ?» En fait, j'étais toujours occupée avec d'autres, avec Carlson, avec Matzek. Donc, en fait, elle a attendu un certain nombre d'années avant de pouvoir m'avoir dans le studio.
Et quel souvenir est-ce que vous gardez de la découverte physique de cette chorégraphie avec Pinabauge ?
Alors j'ai reçu cette œuvre de la part de Malou, donc celle qui a créé cette pièce en 1975. Donc c'est vraiment toujours extraordinaire d'avoir une transmission directe par rapport à la première protagoniste. Et puis après, quand je connaissais la pièce, que je connaissais le texte, que je connaissais la musique, que je connaissais l'espace, j'ai pu rencontrer Pina qui l'a façonné, a modelé. Les dernières choses et puis en fait à peu près tout.
Qu'est-ce qu'elle vous disait ? Vous vous souvenez ?
Elle me disait beaucoup de choses, mais c'est surtout que aussi je la forçais souvent en fait à se mettre debout et à me montrer.
Ah c'est vrai ?
Oui.
Vous la faisiez danser ?
Oui. Et là quand elle me montrait le geste ou le mouvement, c'était juste « Ah oui d'accord, j'y suis pas encore ».
Mais moi, je vais vous forcer à danser. Alors maintenant, je propose qu'on entre ensemble à l'intérieur d'un mouvement et que vous nous en fassiez découvrir une variation. Vous avez choisi le tableau des Champs-Élysées, le paradis.
Là, c'est ma variation. Donc, le tempo est un peu rapide. Donc, pencheur à baisse, développer le coude, que le bras qui se plie, contraction, 2 tours, plié. Je cours à travers les filles. Posé de pied, bras devant, en main, soulever le pied, plier, retourner le bras, contraction, plier, retourner le bras, décaler, main sur le regard, deux tours, plier, seconde, bras croisés, plier, relever, deux tours. Ça va très très vite là, le tempo est un petit peu soutenu.
Et vous êtes en train de danser devant moi, c'est assez extraordinaire. Assise.
Je marcouille.
C'est comme ça que vous répétez aussi, dans votre tête. Marcouiller.
Oui.
C'est assez extraordinaire quand même. Danser, Pinabouche, c'est aussi comprendre, accepter, incorporer toute une philosophie du mouvement. Qu'est-ce qu'elle vous a appris sur ce que c'est qu'un mouvement, justement?
Elle m'a appris à penser le mouvement et à le concevoir et à le rendre matériel, en fait. Et avec une densité, chaque mouvement avec une densité d'air très différente pour Pina, suivant l'acte. C'est-à-dire dans le paradis, je me souviens que j'avais pas assez de poids dans mes bras, donc elle me disait de penser que j'étais dans l'eau. Et dans le quatrième acte, donc le pas de deux, là il fallait que j'incise l'air plus fort, plus par les doigts et par elle a une façon particulière de monter les bras, Pina, c'est-à-dire qu'on monte par le pouce en faisant une légère contraction du poignet et donc c'est de profil, alors qu'en classique on monte toujours les bras. Donc voilà, il y avait plein de choses que je devais travailler, pas encore acceptées par mon corps.
D'où il vient le mouvement, Marie-Agnès Gillot? Quelle est son origine? Par quoi est-ce qu'il est produit?
Je pense par les centres, par le cœur, par le ventre, par la tête.
Et comment on fait pour entrer à l'intérieur du mouvement et de ces gestes créés par Pinabouche? Quel travail sur le corps est-ce que c'est, puisque c'est ce que vous mentionniez?
Quel travail? Je sais pas, j'ai jamais pris ça pour un travail, mais...
C'est vrai?
Ouais, je sais pas trop.
Quand on regarde danser, on a l'impression que votre corps fonctionne tout seul.
C'est bien, c'est ce qu'il faut, c'est ce que je dois représenter normalement, mais... Je sais pas, j'aime beaucoup travailler, j'adore passer des heures en studio et apprendre et sentir que j'approche une perfection pour quelqu'un, en fait. C'est ce qui me fait le plus plaisir, en fait.
C'est possible, la perfection?
Oui, ça arrive. Non, oui, quelquefois.
Vous avez eu l'impression de l'atteindre?
Par seconde, par instant, oui.
À quel moment de votre carrière?
C'était parsemé dans des pièces où là je sentais que j'avais vraiment excellé sur un mouvement. Mais bon, quand on en enchaîne des milliers dans la soirée, c'est un peu. Mais ça me suffisait, quelques secondes. Quelques grammes de finesse, c'est ça?
Dans un monde de brutes. Celle qui a quelques grammes de finesse, mais alors vraiment que quelques grammes dans cette émission, sans doute la connaissez-vous. C'est la culture et son actualité désincarnée, flottante et molle. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 12 avril?
Jamais tombée amoureuse. Je trouve ça dégoûtant.
Allez, dis pas ça.
Pierrot se tape l'affiche. Hier, le Festival de Cannes a dévoilé l'affiche officielle de sa 71e édition. Et c'est une nouvelle fois Godard qui sera mis à l'honneur sur la croisette, 2 ans après la Villa Malaparte du Mépris. Le festival a choisi le mythique baiser de Jean-Paul Belmondo et Anna Karenina dans Pierrot le Fou, tiré d'un cliché du grand photographe Georges Pierre et maquetté par Flore Maquin. L'affiche solaire place cette quinzaine cannoise sous le signe de l'amour, de la lumière et de la liberté. Validé.
Je suis ravi que dans une société de consommation, un livre, le livre, les livres profitent de ce phénomène de consommation.
Les bons prix du mercredi hier, tandis que les libraires des espaces culturels Leclerc donnaient le prix Landerneau Polar à Kizanga, le thriller politique d'Emmanuel Grand paru chez Liana Lévy, l'enchapotée Amélie Nothomb remettait quant à elle le prix de la Closerie des Lilas à Odile d'Outremont pour son premier roman poignant Les Déraisons, publié par les toutes jeunes éditions de l'Observatoire Champagne, comme n'a sûrement pas manqué de le dire l'incorrigible Amélie.
Honestly, I didn't know about the how different to find out on the subculture. So what is the borderline?
Murakami à la folie, la fondation Vuitton met à l'honneur le plasticien prodige japonais Takashi Murakami dans un parcours sur mesure de l'exposition au diapason du monde. Clou Duchaud, le maître du kawaii, présente sa dernière œuvre The Octopus Eats Its Own Leg, fresque monumentale mêlant personnages de la mythologie traditionnelle chinoise et peinture japonaise du XVIIIe siècle. Beauté.
Precious.
Un nouveau précieux, Le Guardian vient de révéler qu'un roman inédit de Tolkien, créateur culte de la saga du Seigneur des Anneaux, sera publié cet été, titré La Chute de Gondolin. Le roman écrit par l'auteur anglais dans un lit d'hôpital après la bataille de la Somme en 1916, livre le récit d'un combat entre le bien et le mal en Terre du Milieu. Il y aura des orques, des elfes et même des balrogs. Et si vous savez pas ce que c'est, rendez-vous le 30 août en librairie. Et Marie-Agnès Gillot, qui ne dira pas My Precious ce matin sur France Inter, mais qui est invitée de Boomerang pour ses adieux officiels à l'Opéra de Paris il y a un peu plus d'une semaine, une institution, l'Opéra, dans laquelle vous êtes entrée il y a 30 ans. Quand on vous a dit tu vas à l'école de danse de l'Opéra, qu'est-ce que vous avez ressenti? Vous vous souvenez?
Je pense que j'étais très fière et très heureuse de monter sur Paris. Parce que pour moi, c'était déjà, j'allais dans la capitale.
Pour la petite fille de 10 ans que vous étiez en Normandie, à l'époque.
Ouais. C'était mon premier voyage sur Paris, je crois.
Vous aviez peur?
Pas vraiment, je crois. J'ai toujours un peu peur, moi, dans la vie, donc ça devait pas changer, je pense.
Peut-être qu'il faut avoir peur.
Oui, j'ai toujours un petit peu peur, moi.
C'était un rêve de devenir étoile, Marie-Agnès Gillot?
Non, c'était une vocation, je dirais. Sinon, je voulais être danseuse, en fait. J'ai pas tout de suite compris qu'il fallait être étoile pour être seule en scène.
Vous l'avez vite fait comprendre, non?
Ah, vite fait, oui.
Ça a été violent? Cet apprentissage, cette école dont on sait qu'elle est dure.
Ça a été dur. Ça a été dur la première année surtout parce que j'étais trop petite. Enfin, j'étais très très petite quoi, 9 ans et demi pour quitter sa famille. C'est un peu atroce quoi.
Et qu'est-ce qui était dur? L'esprit de compétition aussi. À vous regarder, on a l'impression que vous n'en avez pas.
Moi, j'en ai pas trop, mais j'adore l'émulation. Mais c'est vrai que j'étais pas prête à affronter des petites pestes comme ça.
Il y en a eu, des petites pestes. Ah, il y en a toujours, je suppose. Vous savez, il y en a dans tous les milieux, cela
oui,
dit.
Oui, je sais. Il y a une concentration, je sais pas, dans les petits rendez-vous.
Ah, c'est vrai? Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Enfin, bah, heureusement, la vie est bien faite, elle les évince.
Comment vous avez vécu cette toute lente ascension, comme une attente interminable?
J'ai pas senti que c'était lent. Peut-être, à la fin, mais j'ai senti que ça allait très très vite justement. Et puis c'est quand même l'école de danse en 5 ans, on crée un athlète, on crée une artiste. Ça va vite quand même, je trouve.
Un athlète ou une artiste?
Les deux quoi.
C'est en 2004 que vous êtes nommée étoile suite à votre représentation dans Signe, chorégraphiée par Caroline Carlson, que vous citiez tout à l'heure. C'est la première fois qu'une étoile est nommée sur une pièce contemporaine. Ça, c'est grand quand même. C'est fort.
Oui, je les ai jamais prévus, je les ai jamais imaginés. Et...
Quel sens est-ce que ça avait pour vous d'incarner le contemporain?
Oh ben, pour moi, c'est une passion, puisque moi, j'ai pas de différence d'estime par rapport aux danses. Donc, moi, le contemporain, faire du Carlson, c'est grandiose pour moi. Et puis, c'est... Je sais pas, je trouve que c'est très très intéressant de travailler avec Caroline parce que elle est tellement vivante, elle est tellement poétique, elle est tellement, elle a tellement de force, elle veut tellement faire de choses que elle nous grandit, elle nous augmente à
Et ça a fait grandir, ça a fait augmenter l'opéra aussi. Je suppose que l'opéra et les danseurs qu'ils forment sont plus ouverts à d'autres formes de danse.
Bien sûr, maintenant, Caroline, c'est du répertoire pour nous.
C'est vrai.
Comme le Balanchine au départ ou le Forsythe. C'est-à-dire qu'il y a des chorégraphes qui deviennent du répertoire. Voilà, ça devient du classique pour nous.
Vous avez toujours été curieuse, Marie-Agnès Gillot?
Oui, toujours. Oui.
Dans tous les sens du terme?
Oui.
Curieuse bizarre.
Et curieuse bizarre, ça veut dire quoi?
Curieuse. Quand on dit de quelqu'un qu'il est curieux, on dit qu'il est un peu bizarre, mais on dit aussi curieux pour ouvert à d'autres horizons.
Ah oui, moi je trouve pas que la curiosité soit bizarre. Je crois que c'est une bonne qualité. Je trouve qu'on devrait être plus curieux. J'aime pas trop les gens qui sont pas curieux.
Ah ouais, curieux, on va écouter celle, si vous le voulez bien, par la grâce de qui vous êtes devenue étoile, Caroline Carlson, qu'on a appelée.
Figurez-vous,
parce qu'on est comme ça, on recule devant rien. Donc vous mangue. Allô? Allô, Caroline? Caroline?
Marie-Agnès est un poète qui écrit avec son corps. Elle capture l'essence d'une idée avec son corps. C'est pour ça que je dis qu'elle est un poète. Pour moi, le secret derrière chaque artiste, c'est la curiosité. Marie-Agnès a toujours été très curieuse. Elle explore différentes facettes de la danse. Elle cherche toujours de nouveaux défis. C'est ce que j'aime chez elle. Elle transcende le mouvement. Elle est bien plus qu'une danseuse. Et au fond, qu'est-ce qu'un danseur ? C'est un poète, comme je l'ai dit. C'est un état, une présence. Ce qui est remarquable chez Marie Agnès, c'est son corps. Elle a un corps unique. Moi, j'ai l'impression d'avoir de longs bras. Mais quand elle m'a remplacée sur un solo, j'ai vu, ses bras sont deux fois plus longs que les miens. Ses jambes, ses membres sont immenses. C'est ça que j'aime chez elle. Son extraordinaire déformation. Elle est vraiment hors du commun.
Son extraordinaire déformation, dit Caroline Carlson, Marie-Agnès Gillot, à propos de votre corps unique, avec de longs bras deux fois la taille des siens, d'après elle, de longues jambes et puis votre dos. Comment est-ce que vous avez fait de ce corps ce qu'il est devenu aujourd'hui ?
J'ai jamais réalisé en fait que j'avais un corps si différent. Pour moi, il était comme les autres. Je comprenais pas trop pourquoi on me reprochait tant de choses. Donc apparemment, j'avais pas un très bon regard sur moi encore à ce moment-là dans le miroir.
Ça n'est pas forcément un reproche. Là, on l'entend bien dans la bouche de Caroline Carlson.
Non, je rigole, c'est que je me suis jamais sentie différente. C'est ça le problème.
Et pourtant, avec le temps, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent.
Ah oui, avec le temps, oui, on me l'a fait comprendre.
Qu'est-ce qu'il y avait de différent ?
Bah tout en fait. La forme, le sens, l'intérieur. J'ai aussi, je suis naïve, donc je suis quelqu'un qui pense réaliser ce qu'elle désire. Et donc, à force de naïveté, j'y arrive en fait.
Et vous avez tout fait pour prendre possession de ce corps aussi, pour pas qu'il vous dévore, pour pas qu'il vous empêche.
J'aime bien mon corps parce que il m'a démontré dès toute petite que si on le travaillait, il s'enfuyait jamais. Alors que la tête, elle peut s'enfuir. Souvent.
Comment ça s'enfuit un corps ?
Non, mon corps, il s'enfuit pas, moi. Il me porte, il me gère, il me soutient, il me devance. J'ai une grande complexité et dualité. En fait, on fait qu'un finalement avec mon corps.
Et qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous dans le travail sur le corps depuis votre entrée à l'opéra ?
Qu'est-ce qui était le plus difficile ? L'attente, en fait. Parce que on peut tout sculpter de son corps, on peut tout faire sur son corps, mais il y a un temps à respecter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas changer un muscle, on ne peut pas changer une épaule, un bras ou une habitude. Ça prend des mois et des mois. Et ça, c'est long, en fait, parce qu'il faut pas perdre la bonne route, il faut pas perdre le chemin, il faut pas perdre son but.
Et à ce moment-là, il vous échappe, alors ? Il en fait qu'à sa tête.
Ouais, souvent, des fois.
Qu'est-ce que ça voudrait dire pour un danseur, qu'est-ce que ça voudrait dire écouter son corps, Marie-Agnès Gillot ?
Moi, je l'écoute. Je suis plutôt en communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une voix, quoi. On est deux.
Il gueule beaucoup.
Ouais, il gueule beaucoup, mais moi aussi.
C'est vrai. Il y a des engueulades, carrément.
Ouais, des engueulades corporelles entre nous. Là.
En tout cas, ce sur quoi insiste beaucoup Karen Carlson, c'est que votre corps hors norme, dit-elle, il vous sert à écrire de la poésie dans l'espace. C'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait pour vous du danseur un poète ?
Je sais pas. Moi, j'aime danser les sentiments. J'aime vibrer les sentiments. J'aime faire rentrer un sentiment dans mon corps et le retranscrire en physicalité, en muscles, en chair, en respiration, en tout.
C'est ça la poésie, la matérialisation des sentiments, des émotions. On va reparler de ça, là. On va reparler parce que ça m'intéresse, moi, même si on l'a compris. C'est pas vraiment un adieu. C'est un au revoir, comme il y en a souvent, beaucoup, chaque fois. On va écouter ensemble Dinah Washington et Quincy Jones, Every Time We Say Goodbye, 1956. Vous êtes sur France Inter avec Marie-Agnès Gillot. Vous écoutez Boomerang. C'est pas encore la fin.
Every time we say goodbye, I die a little every time we say goodbye. I wonder why a little, why the gods above me who must be in the know think so little of me. They allow you to go. When you're near, they
such an air of spring about it. I can hear a lark somewhere begin to sing about it. There's no love song finer, but how strange the change from major to minor. Every time we say goodbye, I feel so sad every single time. Oh, we say goodbye.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est difficile de la décrire parce qu'elle est protéiforme. Vous savez, tantôt pommier normand, tantôt saule pleureur, tantôt nymphe, tantôt sorcière, tantôt inspecteur gogo gadget au bras, tantôt belle au bois dormant. Avec cette façon qu'elle a de vous regarder, un mélange de timidité et de défiance, léger inconfort, comme une envie de s'enfuir en un grand jeté, un saut de biche ou quelques tombées pas de bourrée, avec son voile en guise de chemise ce matin et ce petit collier en or. Marie-Agnès Gillot, étoile, invitée de Boomerang pour parler adieu et poésie, parce que la grande chorégraphe Caroline Carson en parlait. Vous êtes poète, Marie-Agnès, et vous ne faites pas qu'écrire dans l'espace avec votre corps. Il se trouve que vous écrivez aussi avec des mots. Quand est-ce qu'elle est née, cette pratique de l'écriture?
Toute jeune, depuis toute petite, dès que je me suis retrouvée seule à Paris, en fait, j'écrivais. Alors au départ, ça pouvait être juste mes journées pour pas oublier ce qui se passait. J'ai aussi noté toutes les premières fois de ma vie, des choses drôles. Et puis en fait, après, ça s'est un petit peu chargé en mots, MAUX, MOTS.
Beaucoup de mots, MAUX. Ouais. Justement.
Du coup, c'est comme ça que je commençais à écrire vraiment des textes et des poèmes, des anecdotes, des scènes de ma vie.
Quel travail est-ce que c'est l'écriture au regard du travail sur le corps qu'implique la danse?
C'est à peu près le même procédé pour moi parce que je parle pas et je suis cachée. Et donc voilà, il y a juste à lire ou à regarder, voilà.
Sur scène, vous n'êtes pas cachée?
Ben oui, mais pour moi, j'ai l'impression un petit peu quand même.
C'est vrai?
Oui, c'est un art que j'adore parce que je ne parle pas. Et voilà, pour moi, c'était quelque chose que j'avais du mal au début à faire, à parler.
Est-ce qu'on improvise avec les mots comme on improvise avec son corps?
Oui, pour moi, c'est des jeux de mots équivalents.
Qu'est-ce que ça veut dire improviser pour vous, d'ailleurs, Marie-Agnès Gillot? L'improvisation, dont on pense parfois à tort qu'elle rime avec une forme d'approximation, d'amateurisme, ça n'est pas ça du tout?
Non, pas du tout. Il faut une grande, grande technique, justement, pour faire des belles improvisations. C'est justement l'inverse, en fait. D'avoir la liberté dans un cadre, c'est très, très difficile. Et d'avoir la liberté dans rien, dans une page blanche, c'est encore plus dur.
Vous improvisiez parfois, sur scène?
Jamais.
Même avec Pina?
Jamais. Surtout pas.
Comment elle aurait réagi?
Ah bah non, j'ai même pas essayé.
Et avec Caroline Carson?
Ah oui, Caroline, oui.
Ah, on peut improviser?
Ah oui, Caroline, elle me demande. Elle veut que j'improvise, elle veut que je me révèle, elle veut que je sorte ce que j'ai en moi à ce moment-là. Non, c'est l'inverse.
Ça n'est pas dans l'improvisation que vous allez vous lancer ce matin, Marie-Agnès. Vous nous faites un cadeau extraordinaire, unique, aux auditeurs de France Inter, pour ceux qui n'étaient pas à l'Opéra le 31 mars dernier. Vous allez rejouer les adieux que vous avez écrits.
D'accord.
Sur la musique que vous avez choisie, qui est signée Claire-Marie Bronx.
Oui. Je suis Marie-Agnès Gillot, j'ai 42 ans et me voilà retraitée. On pourrait se croire dans du Jérôme Bell, mais non. Mais non. J'aurais sans doute préféré également avoir à danser plutôt que parler, chanter ou slammer. Ça m'aurait évité d'oublier des personnes à remercier. Mais non. Mais non. Vous m'en voudrez pas? Vous êtes là. J'ai besoin d'aimer pour venir à vous. Et je n'aime parfois plus ce que j'aime tant. Et pourtant. Les grands absents se reconnaîtront dans la sentence du temps. Nous n'en manquerons pas. Nous n'en manquerons plus. Pina, je viens de danser et vivre les derniers pas d'Eurydice. Et je me souviens des premiers à Wuppertal. C'est là que j'ai hérité des quelques graines d'agrumes de Malou. Le temps est passé si vite, mais cette plante est devenue arbuste. C'est une grande leçon de danse, cet art du buste. L'arbuste est vivant et bien en vie. C'est mon sacre. Et Caroline, je t'ai vu tirer un trait dans l'espace. Je pouvais bien le voir. Il était déjà infini. Quelle leçon de vie et de longueur. Tu m'inspires et improviser à tes côtés est un don du ciel. Merci à ces deux maîtresses de l'espace et du laisser-passer. Mais merci aussi à mes chorégraphes. Mais Wayne, Bill, Roland, Rudolph, Mats, Maurice, Benjamin, Crystal, Yiri, Nacho, Pierre, Daniel. Et à mes maîtres, Madame Bourreau, Claude Bessy, Guylaine, Florence, Loïpa, Anna, les pattes. La danse est ma manche de revers à tous les freins de ma vie d'enfant. La justice n'était pas présente, le drame constant. Ma seule liberté était le jeu de bouger dans les airs, d'imiter les bombes noires de ma vie. Je ne danse que pour vivre l'énergie suprême. La physicalité est la plus belle passe de physique et de musique. Musique de la transe, je n'appartiens qu'au dépassement de soi. Je ne respecte pas le pas, mais le temps. Mais je vous respecte, mes chorégraphes et mes maîtres. Et je vous remercie, le plus humblement. Je tenais à m'excuser publiquement auprès de tous mes partenaires. Trois générations ont eu à m'accompagner et me porter. Je n'ai pas toujours été facile en répétition, mais vous m'avez toujours aidé à vaincre la peur du médiocre, afin d'arriver sur scène forte et sans douter. Merci. Mes hommes, ces génies du mouvement, dans l'espace et dans l'art brusque, tous ces prénoms qui parlent en moi, Micha, Kader, les Stéphane, les Vincent, les Yann, les Hervé, Nicolas, Willy, Jérémy, Christophe, Patrick, Benjamin, Mathieu, José, Karl, Manu, Laurent, Pierre-François, Jean-Christ, Jean-Guillaume, Audric, Marc, Florian, Mathias. La liste est longue et infinie. Merci à vous. Je tenais également à m'excuser auprès de tous les chefs d'orchestre, les chefs de chant et les pianistes, qui n'ont pas toujours compris qu'un danseur a son propre tempo. Trop vite, trop lent, trop. Merci de vous être adapté à ma musicalité, ma musique amitié. Je voulais m'excuser auprès de tous mes directeurs successifs. J'ai un peu de caractère et vous l'avez entendu souvent, il fallait me rentrer dedans. Je vous suis rentré dedans aussi. Brigitte, Claude, Rudolf, Patrick, Benjamin, Aurélie, Hugues, Gérard, Nicolas, Stéphane. Mon rapport à l'autorité et à la liberté, vous l'avez forgé. Liberté, non l'égalité, oui à recultiver la fraternité. J'aime les suppléments d'âme. Pardon aux photographes qui ont dû retoucher mes pieds, mes cernes et mes bosses. Âme de boss, with boss. Des bosses au-dessus des pieds, derrière le dos, mes épaules et mon visage, elles sont ma beauté, mon carrosse, mon sacerdoce. Je suis la fée. La fée pas... Ma vie de femme, mon fils, mes amis, mes grands bras sont pour t'enlacer, ma mère, pour te protéger, mon fils, pour vous chérir, mes amis. Et la prunelle de mes yeux, c'est mon frère. Step by step, step by step. La retraite, c'est quand même un drôle de mot. Enfin drôle, mais pas tout à fait le terme. Mes grands-parents l'auraient refusé. Marcher en arrière car on ne peut plus tenir sa position dans la bataille, c'est contraire de tout ce qu'on m'a appris, de tout ce que je suis. Vous m'avez aimé et supporté, et vous aurez encore à m'aimer et à me supporter. Mais nous ferons ça différemment, ailleurs, avec d'autres envies, d'autres découvertes. On laisse jamais bébé dans un coin. Ce soir, je vais partir de mon palais, de ma loge, de ma bâtisse préférée de Paris. Je n'ai jamais vu plus bel édifice à mes yeux. Édifiant monument, tu m'as impressionné dès le départ. Le départ est ce départ aujourd'hui qui me ressemble. Je suis rentrée par différentes portes, mais je n'en sortirai par qu'une. La grande. Celle qui m'ouvre ses bras pour me laisser regarder l'avant venir, puis l'avenir. Sur le pas de cette porte, mes petits et grands pas ne me serviront plus à seulement avancer. Mes déplacements seront une coulée de lave lent et sûr, incandescent. Rien ne les arrêtera. Le sol en pente me guide pour vite ruisseler vers l'issue excitante de futurs feux. À demain.
À demain.
À demain.
Merci.
Merci.
Marie-Agnès Gillot, d'être venue faire un tour dans cette émission. Je vous dis pas à demain, mais à bientôt. À bientôt à l'Opéra de Paris en mai pour The Seasons Canon de Crystal Pite pour une performance autour de l'œuvre de Olafur Eliasson à l'espace Muraille de Genève lundi prochain. Pour un recueil de textes, on l'espère, très vite. Pour un film, peut-être. Je voudrais renvoyer tous les auditeurs à un très beau documentaire, par ailleurs, qui vous a été consacré, qui s'appelle L'Art du Grand Écart, par Anne-Solène Douguet et Damien Cabrespine. Et je voudrais vous remercier encore d'être venu ce matin et de nous avoir confié ces adieux.
Moi aussi, je voudrais vous remercier.
Quel cadeau!